Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, renoncer au voyage, une enquête philosophique. C'est le titre du livre de notre invitée aujourd'hui, Juliette Maurice. Que perd-on exactement à refuser de voyager, écrit-elle. Poser ainsi la question, c'est mettre en lumière le fait que ce qui est recherché dans un voyage excède toujours le voyage lui-même, que la définition même de ce qu'est un voyage est en tout cas moins évidente qu'il n'y paraît. Eh bien, nous allons parler voyage, du voyage, cette manifestation anthropologique qui déploie mieux qu'une autre les aspects les plus paradoxaux d'une nature humaine en proie aux contradictions ou à ce que Pascal aurait appelé des contrariétés, selon Juliette Maurice. Que vous voyagiez ou pas, cette émission va vous intéresser à une époque où ceux qui prennent l'avion sont un peu montrés du doigt. En route donc pour un nouveau numéro d'Idée, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Juliette Maurice.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes agrégée et docteur en philosophie, maîtresse de conférences à l'Université du Mans, dans l'ouest de la France. Je dois dire d'emblée que j'ai beaucoup aimé votre livre,
Merci.
Renoncer au voyage, une enquête philosophique. D'abord parce que le sujet est un beau sujet et vous avez mené cette réflexion avec beaucoup de justesse, beaucoup de citations, beaucoup d'arguments et qui plus est, ce livre est très agréable à lire. Ce qui n'a pas échappé à quelqu'un que nous aimons bien dans cette émission, Roger Paul Droit, qui lui a consacré un article dans le quotidien Le Monde, dans le supplément littéraire du quotidien Le Monde. Bravo, c'est toujours un peu une forme de consécration d'avoir un article de
Merci.
Roger Paul Droit. Juliette Maurice, le titre m'a intrigué. Renoncer au voyage, c'est une injonction ?
Ce n'est pas une injonction. En revanche, le titre est là pour intriguer, exactement. Le titre est délibérément négatif, parce que je voulais échapper précisément à tous ces discours qui ont tendance à enfermer les voyages dans une forme d'évidence, ou de pseudo-évidence, je dirais, dans une banalité.
Je suis, donc je voyage.
Voilà. Et puis, il y a aujourd'hui une injonction au voyage. Si vous voulez, c'est le genre de la citation, c'est le genre du cliché par excellence. Enfin, le genre, c'est une notion qu'on associe au cliché. Un beau voyage, j'ai fait une belle aventure, etc. Le voyage d'une vie. Bon, il y a toute une série de clichés comme ça qui me dérangent et qui, pour moi, d'ailleurs, expliquent la première phrase de Triste Tropique de Lévi-Strauss, que je cite bien sûr. Je hais les voyages et les explorateurs. Cette haine du voyage, évidemment, Lévi-Strauss a beaucoup voyagé. C'est justement une haine de la banalité. Notamment, d'ailleurs, il a une haine particulière pour le terme d'aventure, qui est aussi plein de clichés, potentiellement. Et ce que voulait retrouver Lévi-Strauss, c'est un rapport critique à la question du voyage. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien d'évident à voyager, que ça pose une série, effectivement, de problèmes moraux, et que ça a toujours... Alors, il y a une partie historique dans mon travail. Ça a toujours posé problème, historiquement. Ça a toujours été polémique, et c'est traversé de paradoxes. Et c'est une pratique qui met en évidence nos contrariétés, nos contradictions, et on a tendance à gommer, précisément, ces contradictions, à considérer, voilà, que le voyage, c'est une chose formidable. Non. Et chaque personne ne veut l'avouer ou se l'avoue seulement en secret, dans les moments d'ennui ou de détresse. Mais...
Oui, il est vrai, Juliette Maurice, que dire que l'on n'aime pas les voyages peut vous cataloguer
c'est comme
de façon
dire je n'aime pas
péjorative.
Le chocolat.
Oui, c'est ça.
C'est
oui.
Comme dire je n'aime pas le chocolat. Et puis, vous avez même un tas de je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, d'émissions télévisées où le gros lot, c'était un voyage à l'autre bout du monde. Bon, mais alors... On est obligé d'aimer voyager si c'est... Et puis alors aujourd'hui, évidemment, on considère que... Alors on associe les vacances au voyage et puis on en fait comme ça un graal, un but, quelque chose qui parfois fait tenir aussi les gens, comme si le voyage était nécessaire pour être heureux, comme s'il rendait nécessairement heureux, ce qui ne va pas non plus du tout de soi.
Juliette Maurice, d'autant moins de soi que les choses ont changé, il y a une sorte d'inversion des valeurs. Vous commencez votre introduction en citant Paracelse, que je ne connaissais pas, qui est un médecin et philosophe du XVIe siècle, qui écrivait ceci, c'est au tout début du livre, « Il est nécessaire que je me justifie de ce que je voyage et de ce que je ne demeure jamais au même endroit. » Aujourd'hui, c'est le contraire presque. Il faut se justifier précisément de ne pas voyager.
Alors, exactement. Alors, c'est le contraire. Ça a changé récemment. Oui. C'est-à-dire que ce que j'essaye d'expliquer, hein, c'est qu'effectivement, la norme en vigueur à l'âge classique, hein, c'était plutôt celle qui condamnait le voyage. C'est-à-dire que on condamnait la vanité du voyageur, les dangers qu'il prenait inconsidérément. C'est-à-dire que ce qu'il fallait faire, c'était se donner de bonnes raisons de voyager. C'était là un topos. Donner des raisons, montrer qu'il y a de l'utilité, que le voyage n'est pas... Alors, évidemment, on parle ici des voyages d'agrément, c'est-à-dire pas des voyages motivés par des raisons diplomatiques, politiques, commerciales, où l'utilité apparaît plus immédiatement. On parle des voyages d'agrément, c'est-à-dire des voyages qui, en théorie, ne sont pas nécessaires. Il s'agissait de montrer qu'on n'était pas condamnable, qu'on n'était pas qu'un vagabond si on se mettait à voyager. Bon. Et puis, à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, et avec ensuite l'essor du tourisme de masse, le paradigme s'est inversé. C'est-à-dire que le voyage est devenu une notion positive jusqu'à très récemment, et peut-être que ça vaut encore, hein, il fallait au contraire se justifier de ne pas voyager. Hein. Quelqu'un qui ne voyage pas, on lui dira...
C'est bizarre, vous êtes bizarre.
Oui, alors on le soupçonnera de ne pas être ouvert sur le monde, de ne pas être curieux, d'être paresseux, d'être trop craintif. En tout cas, la norme voudrait que l'on aime voyager, que l'on désire l'ailleurs. Bon, alors, il y a une autre norme qui rebat un peu les cartes de cette polémique, c'est la norme récente qui consiste à dire « moi, je ne voyage pas parce que je veux éviter le surtourisme, parce que je ne prends pas l'avion, parce que voilà, j'ai de bonnes raisons de renoncer ». Alors, souvent, on ne renonce pas complètement parce qu'on opte pour d'autres types de voyages plus proches. Mais ça fait qu'actuellement, on a deux normes concurrentes. Hein. Cette espèce d'injonction au voyage qui dit « bon, il faut quand même être curieux, ouvert, etc., aimer l'aventure ». Et puis, en même temps, voilà, la conscience écologique qui dit « attendez, le surtourisme est un dérèglement abominable, prendre l'avion inconsidérément, ce n'est plus possible, etc. » Donc, ces deux normes se font un peu concurrence. Alors, ça peut aussi nourrir, d'ailleurs, les raisons de ceux qui ont peur ou qui refusent de voyager, de dire... De faire passer ça pour une préoccupation écologique. Ce n'est pas mon cas. Je dois dire que j'ai peur, que je suis phobique de l'avion, mais je n'ai pas écrit, pour ces raisons-là, un plaidoyer contre les voyages, et notamment un plaidoyer écologique, ce qui serait d'une hypocrisie morale sans nom, dès lors que je déteste prendre l'avion. Ce serait très facile de m'abstenir de prendre l'avion. C'est aussi pour ça que renoncer n'est pas une injonction, c'est une invitation à la réflexion. Hein. C'est pour ça que j'ai sous-titré « enquête ». Ce n'est pas une philosophie, c'est une enquête. Ça veut dire une recherche.
Une enquête philosophique et littéraire
et
également,
littéraire.
Dans votre livre, je le précise. Juliette Maurice, parlons de la notion de voyage que vous examinez sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Et, il y a dans le monde des voyageurs une espèce d'aristocratie. Les écrivains voyageurs, on les connaît tous. Et il y a dans ce monde... Dans cette aristocratie, un élément, quelque chose qui revient très souvent, c'est on ne pourra plus jamais voyager comme avant parce que tout est découvert, parce qu'il y a des touristes partout, etc., etc. Ça, vous l'examinez aussi, cet argument.
Oui, parce que j'ai voulu aussi remettre en perspective cette notion qui revient, qui est la notion de fin des voyages, c'est-à-dire on ne pourra plus voyager comme avant, cette phrase qu'on entend. Et cette phrase, alors il ne s'agit pas de dire un peu naïvement que l'histoire ne ferait que se répéter, mais cette phrase, en fait, elle n'est pas absolument inédite. J'ai essayé de montrer qu'il y a au moins deux périodes historiques pendant lesquelles on a déjà pu dire « c'est la fin des voyages ». Une première phase qu'on peut plutôt borner à l'époque moderne, où effectivement, avec les tours, les circumnavigations, les tours du monde, etc., l'idée qu'on commençait à découvrir, voilà, à peu près... à faire
tous les continents.
Voilà, tous les continents. Il y a eu cette idée qu'on avait tout dévoilé. Et dans la notion de dévoilement, vous avez la notion d'apocalypse, qu'il y avait une fin du monde quasiment associée à ce dévoilement total de la Terre. Et puis, il y a une deuxième phase qui date plutôt du tournant du 19e et du 20e siècle, qui est plutôt associée au thème de la mort de l'exotisme. Mais en tout cas, effectivement, ce que j'ai cherché à montrer, c'est que ce thème de la fin des voyages n'est pas nouveau et que est associé à ce thème une espèce d'éthos du voyageur qui croit toujours être le dernier, qui croit toujours, alors qui croit déjà savoir ce qu'est un vrai voyage, hein, évidemment. Un vrai voyage,
on
c'est...
On verra tout à l'heure ce qu'est un voyage, finalement.
Et puis, qui dit... je suis le premier et le dernier à être passé par là. Il y a presque, je dirais pas un complexe de supériorité, mais c'est assez frappant.
Vous parlez, Juliette, de nostalgie égocentrique mêlée de conservatisme.
Alors, c'est le cas de certains. Peut-être je dis ça à propos de Kipling.
Kipling,
c'est possible,
notamment. Oui.
Parce qu'il considère que, voilà, apparaît l'avion. Avec l'avion, c'est la fin des voyages. Mais... il n'est pas le premier, voilà, à dire avec tel mode de transport, c'est la fin des voyages. Vous avez Alexandra David-Néel qui dit bon, il va y avoir un train qui pourra m'emmener rapidement, voilà, vers les contrées perdues de l'Asie, et je suis contente de ne pas l'avoir connu. Je le fais, mais après, ce ne sera plus si authentique. On va perdre en authenticité. Il y a aussi cet argument. Effectivement, il y a un éthos, une posture morale consistant toujours à dire. Je suis, voilà, le dernier vrai voyageur. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je m'intéresse à la question... Enfin, quand on s'intéresse à la question du voyage comme problème moral, il faut aussi s'intéresser à cet éthos du voyageur qui en dit long.
Et il y a, au cœur de cette prise de position, de cette façon de voir les choses, la vitesse.
Oui.
Pour beaucoup, pour les voyageurs, les écrivains voyageurs, les plus connus, le voyage, c'était plutôt l'éloge de la lenteur. Et vous citez, à contrario, Bernanos, qui lui n'avait rien d'un écrivain voyageur, qui écrit ceci. « Allez vite, mais allez où ? Paris-Marseille en un quart d'heure, c'est formidable, car vos fils et vos filles peuvent crever. Le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. »
C'est assez violent. Et effectivement, il y a une forme de nostalgie de la lenteur. Et je m'y suis intéressée parce qu'elle est très prégnante actuellement. Hein. On parle de slow travel, de voyage, voilà, où l'on prend son temps. Et alors, ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est que souvent, on fait l'éloge du train contre l'avion en disant le train, c'est le temps long. Et puis... on va voir un texte de Vigny qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette cadence infernale du train ?» Ben, évidemment, quand le train était nouveau et qu'il permettait d'aller plus vite, sans s'arrêter régulièrement, on a trouvé que c'était d'une vitesse infernale. Donc, il faut aussi quand même remettre les choses en perspective. Et puis aussi, bien comprendre ce que ça permet de voir, tous ces discours sur la vitesse, c'est qu'il y a deux choses distinctes. Il y a la vitesse et puis la sensation de vitesse, ou la lenteur et la sensation de lenteur. Et ce sont deux choses différentes. Je consacre aussi un chapitre à ce que j'appelle la phénoménologie de la locomotion, c'est-à-dire aux sensations qui sont liées aux différents modes de transport et à ce que ça fait à nos corps. Et ce sont des aspects différents qui peuvent en tout cas permettre d'expliquer toutes ces postures qu'on a, ces jugements de valeur qu'on peut faire sur, voilà, sur l'avion, le train aujourd'hui, etc.
Thank you.
écoutez le magazine Idées et avec Juliette Maurice, notre invitée, nous parlons des voyages sous différents angles grâce à son livre qui s'intitule « Renoncer au voyage, une enquête philosophique », un livre publié aux éditions PUF, les presses universitaires de France. Dans votre livre, qui est très complet hein, et qui aborde cette question, encore une fois, sous de multiples angles, vous posez la question clé, qu'est-ce qu'un voyage et qu'est-ce qu'un voyage, on pourrait ajouter cette autre question, qu'est-ce qu'un voyage réussi? Finalement, qu'est-ce qu'un voyage?
Alors, exactement. Il y a toute une partie du livre qui est consacrée à la définition. Alors, vous me direz, évidemment, toute entreprise de réflexion philosophique doit passer par un exercice de définition. Si on considère, comme c'est courant, que la philosophie, c'est chercher des problèmes et des définitions, ou des problèmes qui mettent au jour des définitions, etc. Bon. Et je voulais montrer qu'avant d'émettre des jugements sur ce que doit être ou ne pas être un voyage, il fallait savoir de quoi on parle exactement. Évidemment, ça pose différents problèmes. Je me suis d'abord demandé, bon, il y a un problème de mesure. À partir de combien de kilomètres, de combien de pas, on va considérer qu'on voyage? Est-ce qu'il faut partir à l'étranger? Est-ce qu'il faut franchir une frontière? Combien de temps doit-on partir? Parce que si on part pendant 20 ans, est-ce qu'on peut encore dire qu'il s'agit d'un voyage? Bon, on voit bien que ça pose comme ça... Alors, c'est pas simplement... Alors, pour le plaisir de chercher la complexité là où elle ne serait pas, je crois vraiment qu'il y a un problème quantitatif. Cela dit, j'ai montré qu'il y avait un certain nombre d'impasses dans cette définition quantitative. Je me suis ensuite lancée dans la recherche de critères plus qualitatifs, c'est-à-dire est-ce qu'il faut nécessairement faire l'expérience d'un ailleurs, mais comment on définit cet ailleurs? Est-ce qu'il faut changer radicalement de lieu? Est-ce qu'il faut... Voilà, il y a tout un tas de problèmes qui se posent. Et puis là, on en vient à ces paradoxes qui sont liés à la question du voyage immobile. C'est-à-dire que le risque, en fait, c'est
du
toujours...
Du voyage autour de ma chambre, voilà, comme disait exactement. Joseph de Maistre.
Le risque, en fait, quand on cherche à définir le voyage, c'est toujours celui du relativisme. Et vous avez dû noter que dans toutes les belles citations, grandes citations auxquelles j'en veux beaucoup sur le voyage... on va dire, bon, le voyage, c'est simplement un état d'esprit. On peut voyager sans changer de place. Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour voyager. Tout un tas de belles citations. Mais sont-elles vraiment pertinentes? Parce que on finit par, finalement, quand on, j'ai essayé de les prendre au sérieux, on finit par définir le voyage par une chose et son contraire, ou finalement par considérer que voilà, un voyage et non-voyage, c'est exactement la même chose. C'est rester dans sa chambre, c'est simplement une disposition d'esprit. Alors évidemment, c'est un aspect que j'ai approfondi, la question de la concurrence entre voyage réel et voyage fictif, qui vient rendre cette définition encore plus complexe. Parce que si on considère que on voyage aussi bien par l'imagination. Bon, le critère de définition du voyage devient très flottant. Alors, vous m'avez posé la question aussi de savoir ce que c'était qu'un voyage réussi.
Réussi.
Ça, c'est une question
qui est éminemment subjective.
Alors, c'est subjectif et puis en même temps, poser la question, c'est mettre le doigt précisément sur ce qui ne va pas de soi et sur le fait que les voyages ne sont pas toujours une chose si plaisante parce qu'il y a beaucoup de moments d'ennui, parce qu'il y a beaucoup de déceptions, etc. J'ai mis en concurrence deux figures de façon complètement délibérément anachronique. C'est la figure d'un côté de Phileas Fogg et puis de l'autre côté celle de Montaigne.
J'ai trouvé d'ailleurs que la comparaison était très, très riche.
Alors, Phileas Fogg, personnage fictif de Jules Verne,
qui fait le tour du monde en 80 jours.
Fait son tour du monde en 80 jours, prend tous les moyens de transport possibles, mais ne s'intéresse absolument pas à ce monde dont il fait le tour. Il charge son valet d'aller voir, de descendre, etc. Lui est préoccupé d'exactitude, de la réussite de son, par la réussite de son pari. Un voyage réussi, pour lui, c'est un voyage fait en temps et en heure, sans obstacle, qui viendrait lui mettre des bâtons dans les roues. Bon. À l'inverse, vous avez Montaigne, voyageur bien réel, celui-là, du XVIe siècle.
18 mois sur son cheval pour aller en Italie.
Exactement, qui lui revendique le fait de pouvoir aller à droite, à gauche, revenir sur ses pas, en arrière, de ne pas avoir de plan défini, revendique une très grande liberté. Pour lui, un voyage réussi, c'est un voyage qui fait la part à une forme de vagabondage.
C'est frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. La phrase est célèbre.
La phrase est très célèbre parce que, aussi, ce qu'il faut dire aussi, la grande différence entre un Phileas Fogg et un Montaigne, c'est que Montaigne s'intéresse aux autres. Montaigne s'intéresse à l'étranger, à ceux qu'il va croiser, non pas tellement aux monuments. Bon, Phileas Fogg ne s'intéresse absolument pas aux étrangers qu'il peut rencontrer. Et il y a cette alors c'est une coïncidence sans doute, mais chez Jules Verne, on trouve cette idée que les frottements retardent, au contraire. Le même terme de frottement qui revient. Montaigne veut frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui.
Puis mets en avant la curiosité, hein, une autre citation que vous reproduisez toujours dans votre livre formidable, Juliette Maurice, « Il faut pour voyager une honnête curiosité de s'enquérir de toute chose ».
Oui.
Curiosité.
Oui, ouverture. Curiosité, ouverture. Alors, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il est assez mal vu de dire « je n'aime pas voyager », parce que celui qui nous dira « je n'aime pas voyager » sera taxé de fermeture. Au contraire, hein, on lui reprochera de ne pas être ouvert au monde. Alors qu'à l'âge classique, on reprochait à l'inverse à celui qui voulait trop voyager de ne pas s'intéresser à sa famille, à sa patrie, au sien. Évidemment, les pratiques ont changé et ça fait qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus exactement en ces termes. Mais effectivement, la question se pose en termes d'ouverture au monde.
Ouverture au monde, c'est une question très actuelle, hein, parce qu'on voit masse de touristes, de voyageurs qui photographient, qui voient le monde avec leur portable, leur téléphone portable.
Effectivement,
c'est
l'écran...
C'est une curieuse façon de voir le monde et de le découvrir.
Alors, dans ce cas, il faut prendre le terme « écran » au sens fort du terme. C'est-à-dire que l'écran du téléphone fait écran et qu'on peut se demander quel type d'expérience fait le voyageur qui se contente d'aller prendre sa photo de tel ou tel site, évidemment. Aller avec cette idée aussi que la photo, hein, genre, je l'aborde la question, elle fonctionne un peu comme une preuve, hein, pour dire je suis là. Il y a quelque chose de très symbolique dans l'acte de photographier.
Mais hein. Peut-on parler d'ouverture aux autres dans la mesure où le selfie, c'est le contraire,
en fait. Alors évidemment, le selfie, c'est le contraire. Et alors il y a quelque chose de... Alors c'est là que je dis, c'est vraiment le lieu de tous les paradoxes. C'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui meurent en prenant des selfies dans des endroits... Absolument, non mais il y en a, absolument dangereux, voilà, qui vont se photographier près du vide ou dans des endroits très dangereux et qui vont mourir en prenant un selfie, symbole, allégorie de la vanité du touriste contemporain, si on peut dire.
J'en reviens, Juliette, à ceux qui disent qu'on peut voyager en lisant Pétrarque, par exemple, que vous publiez, dont vous publiez un extrait d'une lettre, Pétrarque qui écrivait ceci, « Partir vers ces terres, non pas une seule fois par mer, à cheval ou à pied, ni en trop long voyage, mais fréquemment, grâce à une simple page, par les livres et par l'imagination. »
Oui.
Je trouve ça pas mal aussi.
C'est pas mal et il invoque trois arguments, en fait, qui sont encore pertinents. Pourquoi dit-il qu'il vaut mieux voyager par les livres ? Parce que voyager fatigue et dangereux, salit. Il n'y a que des inconvénients, en fait, hein, si on regarde bien les choses. Voyager, en plus, fait perdre du temps, hein, nous dit Pétrarque. Et puis, voyager nous fait perdre les liens de la véritable amitié. Effectivement, voyageons... prenons au sérieux cette hypothèse de Pétrarque, ou cette invitation de Pétrarque plutôt, et voyageons dans les livres. Alors aujourd'hui, en plus, on a les films, et puis on aura peut-être aussi les écrans de réalité virtuelle pour avoir l'impression de voyager ailleurs. Alors, cela dit, cette position, on la connaît, mais j'ai accordé beaucoup de place à la réfutation de cette position, notamment via Montaigne à nouveau. Parce que ce qu'il manque, me semble-t-il, dans tout ce topos, hein, de la lecture comme voyage, la lecture comme évasion, etc., c'est l'épreuve du corps et c'est l'épreuve du risque. Je parle beaucoup du corps.
Et hein. Oui, et du besoin physique de se déplacer aussi.
Oui, et ce qui est intéressant à mes yeux, c'est de montrer que le besoin physique de bouger est une raison au moins aussi intéressante philosophiquement que toutes les raisons qui sont parfois un petit peu hypocrites qu'on invoque précisément, qui consistent à dire je veux devenir une meilleure personne, je veux me frotter au monde, je veux grandir, je veux connaître, etc. Donc qui sont des raisons de voyager qui sont plutôt de nature morale. Et j'ai l'impression qu'il est important de faire une place aussi à toutes ces raisons. C'est Diderot qui le fait d'ailleurs très bien, qui dit bon, on va peut-être pas se bercer de cette illusion selon laquelle voilà, les voyages nous rendraient vraiment meilleurs. Peut-être qu'on a simplement, pour des raisons purement matérielles, besoin de bouger, que notre corps voilà, manifeste à des moments différents des besoins de bouger ou pas, de revenir, de partir, suivant les événements.
Et ce besoin peut être alimenté aujourd'hui par les écrans, par tout ce que nous pouvons voir de reportages, de documentaires sur le monde, avec cette envie d'aller voir soi-même. C'est-à-dire cette espèce de curiosité suscitée par les écrans, par les chaînes de télévision, par les documentaires, par l'Internet, qui offre souvent des images absolument sublimes du monde. Et peut-être qu'il y a chez la personne qui voit ces images, au bout d'un moment, l'envie d'aller les voir, d'aller voir ces images en vrai.
Effectivement. Alors, il y a une circularité, en fait, des pratiques qui existaient déjà avant même les écrans, c'est-à-dire à l'époque où on ne pouvait qu'écrire hein, ces récits. Il y avait déjà cette idée d'une circularité des pratiques, c'est-à-dire le récit de voyage alimente un voyage qui, à son tour, alimente un récit, ce qui a fait dire à certains que voyager était inutile puisque les récits avaient déjà été faits. On disait ça à une époque où on était beaucoup moins individualiste. Aujourd'hui, on considère que chacun a le droit d'aller vérifier...
D'aller faire son selfie.
D'aller faire son selfie à l'autre bout du monde.
Le Yucatan.
Et cela dit, sans condamner nécessairement la pratique du touriste, il est vrai que peut-être qu'on voyage pour aller vérifier quelque chose. Et en ce sens-là, d'ailleurs, le voyage, de manière paradoxale, ne se pense pas comme une fuite, mais comme une espèce de quête nostalgique. C'est Deleuze qui dit ça, d'ailleurs, en évoquant Proust, en fait. On ne voyage pas simplement pour fuir, pour se départir, pour l'ailleurs en lui-même. De toute façon, comment désirer l'ailleurs si on ne sait pas, si on ne sait pas ce que c'est que l'ailleurs. Ouais, là, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Donc, on désire l'ailleurs parce qu'on en a une forme de préconception. On en a une connaissance vague et on voudrait l'actualiser. C'est ce qui permet d'écrire ce désir d'ailleurs, parce que on ne peut pas désirer ce dont on n'a aucune connaissance. À l'inverse, ce qu'on connaît déjà par cœur, on ne peut pas le désirer non plus. C'est aussi pour ça qu'il y a tous ces discours sur l'exotisme que j'aborde aussi, c'est-à-dire que le désir d'exotique, le désir d'ailleurs, en fait, c'est désirer quelque chose qu'on méconnaît.
Okay.
suite de ce numéro d'idées consacré au voyage, en compagnie de Juliette Maurice, qui a écrit « Renoncer au voyage, une enquête philosophique », et moi j'ajoute « et littéraire », donc, un livre publié au PUF. Vous abordez, parmi toutes les questions que vous étudiez, Juliette, la question essentielle, à mon sens, que vous résumez en une phrase, en une interrogation. Pourquoi partir si l'on s'emmène toujours soi-même en voyage? Parce qu'il y a dans le voyage le désir de peut-être de se découvrir autre, de changer peut-être. Mais vous, très philosophiquement, vous dites non, on ne change pas, on est toujours soi quand on part en voyage.
Oui, c'est une objection qui remonte au moins à Socrate, hein, qui est connu, hein, Socrate, à celui qui lui demande « Mais je suis parti, pourquoi est-ce que je ne vais pas mieux? Pourquoi est-ce que, malgré ces déplacements, je suis toujours avec... » Mais parce que tu t'es emmené toi-même, parce que tu ne peux pas partir de sortir de ta propre personne. Cette citation de Socrate, elle est reprise plusieurs fois. Elle est reprise notamment par Sénèque, qui dit « Celui qui souffre ne va pas se défaire de sa souffrance en changeant de lieu. »
Il arrive même que cette souffrance prenne une toute autre dimension quand on s'éloigne de ses bases.
Exactement. C'est comme gratter une plaie, dit Sénèque. Hein. Alors ça permet aussi de s'interroger sur les vertus thérapeutiques du voyage. C'est un des aspects de la question. Hein. C'est est-ce que le voyage peut guérir, peut nous permettre d'aller mieux, d'être heureux, etc. Bon, c'est un grand sujet qui pourrait faire l'objet d'un livre à part entière, hein, la question des vertus thérapeutiques du voyage. Eh bien, Sénèque, reprenant Socrate, dit « Si vous allez vraiment mal, ce sera pire encore. Hein. Vous ne ferez que secouer un malade. » dira Sénèque, parce qu'on s'emporte toujours avec soi.
Et vous citez la grande voyageuse et écrivaine Ella Maillard dans son livre « Le sens du voyage » qui écrit ceci. « Oui, on voyage pour tout quitter, mais c'est la grande illusion puisqu'on emporte ses facultés avec soi. C'était toujours moi-même que je trouvais au bout du voyage et je regrette qu'il m'ait fallu gaspiller tant d'années avant d'avoir le courage de faire face à moi-même. »
Je trouve ça étonnant parce que effectivement, ce que je pointe, c'est que on a l'impression que, finalement, plusieurs voyageurs ont fait un peu le même constat d'échec, de cet échec-là, justement, qui consiste à dire, bon, je dois faire face à moi-même et ce n'est pas au bout du monde que les choses vont se... En allant au bout du monde, que les choses vont se résoudre. Et ce qui est étonnant, c'est que, finalement, on est en train de se dire, mais est-ce qu'elle regrette d'avoir voyagé ou pas ? On a l'impression qu'il faut, ici aussi, faire soi-même l'expérience de l'échec. C'est-à-dire qu'il y a quand même... je pense qu'elle ne considère pas qu'elle aurait dû ou pu se passer de ses voyages, mais il y a un constat d'échec qui a été fait par plusieurs auteurs, qui a été fait plusieurs fois, mais dont on ne tire pas la leçon et finalement qu'on doit faire soi-même, j'ai l'impression.
Ce qui compte, et ça c'est un autre aspect du livre, Juliette Maurice, c'est qu'il faut voyager, mais alors surtout pas comme touriste. Et vous citez, là cette fois... un homme qui nous a quittés, un anthropologue, Marc Auger, que nous avons eu le plaisir d'inviter dans cette émission, qui disait « Voyager, oui, il faudrait voyager, mais surtout ne pas faire de tourisme ».
Oui, alors il y a cette idée que le tourisme serait une version dévoyée du voyage. Mmh. Ce qu'on peut demander à l'inverse, c'est est-ce qu'il existe vraiment un voyage authentique et non pas seulement des touristes ? Parce que c'est toujours le problème. On se dit non, moi je ne suis pas un touriste. Le tourisme, c'est un mauvais voyage. Bon, est-ce qu'il existe vraiment un bon voyage, un voyage authentique? Je ne suis pas sûre. J'aime beaucoup la figure du voyageur je trouve qu'on peut en faire une analyse anthropologique au sens des moralistes de l'âge classique. Parce que c'est un caractère, au sens où l'employait La Bruyère. On pourrait ajouter au caractère de La Bruyère un chapitre qui s'appellerait « Le touriste » ou « Des touristes ». Parce qu'on peut faire une analyse anthropologique de cette figure qui, en fait, pose plusieurs problèmes. C'est d'abord, le touriste, c'est toujours l'autre. On croit que c'est toujours l'autre, mais en fait, on est toujours soi-même un touriste. Donc, premier problème, celui de la spécularité. Deuxième problème, on croit toujours effectivement qu'il y a derrière le touriste un vrai, enfin derrière ou contre le touriste, un vrai voyageur. C'est-à-dire qu'il y aurait un jeu d'apparence. D'un côté, les faux voyageurs, de l'autre, les vrais.
Et puis ceux enfin, qui ont le guide bleu et ceux qui ont le guide du routard, par exemple.
Voilà. Et puis enfin, il y a cette idée que le touriste, c'est un être qui n'a pas d'âme, c'est un être collectif, parce que le touriste est toujours en groupe. Mais ce que je trouve fascinant, c'est cette idée, en fait, de haine intériorisée. On a tendance à mépriser le touriste, et en fait, ce mépris, il cache une haine de soi, parce que ce qu'on n'aime pas dans le tourisme, c'est ce qu'on risque toujours de devenir quand on est en voyage, et ce qu'on est, selon moi, toujours en voyage, en fait. On est toujours un touriste. Alors, moi, je n'ai pas la posture de celui qui dit « je suis une... » celui ou celle qui dit « je suis un vrai voyageur ou une vraie voyageuse » et non pas un touriste, absolument pas, parce que je sais très bien qu'il y a cette espèce d'injonction contradictoire permanente qui consiste à fuir les lieux touristiques et à se retrouver dans des lieux fort touristiques. Ce que dit un auteur que je cite également, qui est Dupuis, c'est « le touriste est toujours là où il ne veut pas être, en fait ». Il y a vraiment une sociologie, une anthropologie de la figure du touriste que je trouve passionnante et très instructive sur la question de savoir s'il faut renoncer ou pas au voyage, etc.
Oui, parce qu'il y a cette notion d'aujourd'hui qui est le surtourisme, qui est là très nettement un repoussoir. Personne n'a envie de se retrouver sur une ville flottante ou dans la cohorte des touristes qui saturent Venise, par exemple.
Alors, deux positions. J'entendais l'autre jour, justement, dans un rayon de guide de voyage, deux jeunes filles qui disaient « Venise, Venise ». L'une d'elles dit « Il ne faut pas aller à Venise ». Et l'autre lui répond « Il faut y aller avant qu'il ne soit trop tard ». Alors, évidemment, moi, j'ai vu Venise plusieurs fois, donc c'est facile. Je ne vais pas vous dire « n'allez pas à Venise ». Évidemment, la plupart des touristes qui ont les moyens de se déplacer, vont se dire « j'ai quand même un peu envie d'y aller avant qu'il ne soit trop tard ». Il y a un problème, si on veut penser justement une éthique des voyages et la question du surtourisme du point de vue éthique, il faut bien se rendre attentif au fait que le touriste a toujours l'insentiment d'être là trop tôt ou trop tard, surtout que le touriste est toujours l'autre. Et le fait de penser que le touriste est toujours l'autre, ça crée un phénomène de dilution de responsabilité. Vous savez, la dilution de responsabilité, c'est par exemple, je ne sais pas, devant une urgence, un enfant qui se noie, etc. Si vous êtes seul face à cet enfant, vous allez le secourir. Si vous êtes 10, l'enfant a plus de risques de se noyer. Ce sont des paradoxes de psychologie sociale. Bon, j'ai l'impression que le surtourisme est un peu pris dans ce type de contradiction. Étant donné qu'on pense que je ne suis pas un touriste, que je fuis le tourisme, que le touriste est toujours l'autre, on risque de se dire « bon, moi, je fais exception ». Et en se disant qu'on fait exception, on contribue à la catastrophe, en fait, paradoxalement.
Et le paradoxe est aussi vrai pour les voyages en avion, les voyages aériens, que vous détestez, donc Juliette Maurice. Vous vous souvenez de ce qu'on disait en 2020, le monde d'avant, le monde d'après, la pandémie aura forcément changé les choses. Il y a autant de voyages en avion aujourd'hui qu'il y en avait avant le Covid.
Effectivement, le tourisme va très bien et le nombre de vols en avion a retrouvé a retrouvé les scores d'avant la pandémie. Alors peut-être qu'il y a un décalage entre les idées et les pratiques et les mœurs. Peut-être que les idées sont un peu... On se dit, peut-être qu'il faudrait renoncer, limiter, en tout cas, voyager de façon un peu plus raisonnable. Et puis, peut-être que les pratiques, les mœurs sont en retard sur ces idées-là. Ou peut-être qu'il s'agit de discours ou de positions purement idéologiques. Et peut-être qu'on en sortira...
Ou des postures, tout simplement.
Des postures, voilà. Mmh. Il ne s'agit que de postures. Mais il est vrai qu'il y a effectivement une contradiction, parce qu'on voit émerger ce discours consistant à dire qu'il faudrait peut-être limiter un peu les dégâts. Et puis, de l'autre côté, des envolées des chiffres du tourisme.
Alors, vous développez dans ce livre, décidément très riche, Juliette Maurice, le côté exotique, l'exotisme dans les voyages. Et vous dites aussi que finalement, le voyageur est un menteur.
Alors, j'y viens après, à la fin. Le voyageur est un menteur. Alors, la tournure est un peu... Oui. Est délibérément provocatrice. Cela dit, c'est une affirmation que vous trouvez dans les textes, par exemple, sous la plume de Diderot.
Oui.
Le voyageur est un menteur, que vous trouvez dans l'encyclopédie.
Ulysse était un menteur.
Il
était habile, il a réussi à se sortir de situations grâce à la métisse, sa ruse, l'intelligence.
Oui, la métisse, la sagacité, la ruse qui permet de s'adapter justement au mouvant, au monde, dans ce qu'il peut avoir d'imprévisible. Et il a dû se déguiser. Et cette question du déguisement, voilà, on peut la voir comme une question très littéraire. Voilà, on s'intéresse à un voyageur comme Ulysse. Et puis on s'intéresse aussi à un voyageur, par exemple, réel comme Pierre Loti, qui lui adorait se déguiser. Alors on peut se dire, bon, ce sont un peu voilà, des personnages. Mais en fait, cette question du déguisement, elle nous concerne. Un touriste est déguisé. Un voyageur est déguisé. Et on ne va pas n'importe où, habillé n'importe comment. Oui, c'est pour ça qu'on le voit de loin. Et parfois, il y a une forme de décence aussi. Il y a un tas de questions éthiques qui peuvent se poser. Est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme je veux? Est-ce que je dois me voiler, par exemple, pour aller dans un certain nombre de pays? Ce sont des vraies questions éthiques qui sont liées à toute cette histoire du lien entre le voyage et le déguisement.
Et parfois, on en connaît tous, il y a des voyageurs qui reviennent de voyage et qui mentent un petit peu, hein, qui ont vécu des choses extraordinaires alors que ce n'était pas si extraordinaire que ça. Ça, c'est un peu anecdotique peut-être. Juliette, pour conclure cette émission, il faut revenir sur cette notion de voyage, ce que vous faites dans votre conclusion. Vous dites que finalement, le voyage, c'est la manifestation d'un manque, d'une insatisfaction. C'est ce désir de voyager. Et vous citez Flaubert, qui n'aimait pas voyager, qui s'ennuyait toujours en voyage, mais qui n'avait qu'une envie, quand le voyage se terminait, c'était de repartir.
Oui. Il y a une dynamique dans le désir de voyager qui peut être paradoxale, parce qu'on désire l'ailleurs, et puis souvent, au bout d'un certain temps, on désire rentrer chez soi. Il y a un texte que j'aime beaucoup, que je cite en dernier lieu, c'est un texte de Chesterton, qui met en scène deux personnages, et l'un d'eux est en train de faire ses valises, l'autre lui dit « Mais que fais-tu? Où pars-tu ?» Et il lui dit « Je vais à Battersea. » Or, c'est là où il habite, c'est là où il se trouve. Il dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est encore un de tes foutus paradoxes. » Il dit « Non, j'y vais, parce que j'ai besoin de partir pour comprendre ce que veut dire habiter mon pays, ma ville, ma maison. » J'ai l'impression que dans le désir d'ailleurs, il y a aussi ce désir d'habiter. Alors vous allez me dire, mais à ce moment-là, à quoi bon se déplacer? Si ce qu'on désire, c'est mieux habiter, mieux retrouver les siens, mieux habiter son pays, sa maison, etc. Eh bien, Chesterton dit, non, je pars quand même. Il y a l'épreuve, il y a la nécessité, voilà, justement, de vivre cet éloignement, de se bouger, comme on disait tout à l'heure, de se bouger physiquement, d'y aller, de passer à l'action, même si, à la fin, c'est pour rentrer chez moi et peut-être voir différemment mon chez-moi. C'est dire que le dépaysement qu'on recherche en voyage, puisqu'il est beaucoup question de dépaysement, ne concerne pas seulement ce qu'on va voir là-bas, mais concerne aussi notre monde quotidien. On cherche à être un peu dépaysé. Parfois, on rentre chez soi et puis on retrouve une odeur, on retrouve ses habitudes. Et peut-être que c'est ça qui rend plus heureux, en fait. C'est d'avoir été un peu dépaysé, de trouver son chez-soi un peu dépaysé.
Merci Juliette Maurice. Votre livre que je recommande, vous l'avez compris, s'intitule « Renoncer au voyage, une enquête philosophique ». Il est publié au PUF. Merci infiniment
d'être venu
nous en parler. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous rappelle que vous pouvez écouter à tout moment toutes nos émissions sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et sur votre plateforme numérique préférée également. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à cette heure-ci avec de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.
Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voyages, je sais comment passer le temps. Ça veut dorés et coquillages murmurent en dormeur du feuillage. Le vent efface mon sillage pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs. Dangereux marécages, les voyages, les voyages, les voyages. Je veux des fruits mûrs, des fruits verts, des fleurs charnues, calice ouvert, des parfums fous, légers, pervers. La mer s'offre chaude. Profonde caressante, calme et féconde. Fais-moi douce petite et ronde pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages. Dormir, mais au revoir. Je vais dormir, mais au revoir. Je vais dormir, mais au revoir.